Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
Salut Richard.
Salut, un autre mystère après le monolithe, que s'est-il passé à l'Association des libraires du Québec?
Ah, ils ont fait de la censure, mais involontairement.
Oui, c'est ça.
Accidentellement, oui. Parce que c'était pas la volonté.
Exactement. Karine Fafard, la directrice de l'Association des libraires du Québec, finalement, qui a reculé face à les gens qui se sont soulevés en disant que c'était de la censure. Je ne voulais pas faire de la censure, mais c'est quoi d'abord? Tu sais, t'enlèves, tu fais disparaître la liste de lecture pour deux trucs, hein, deux raisons. Premièrement, parce que c'est Monsieur Legault. Il ne veut pas s'agenouiller devant les gens qui demandent à ce qu'il condamne le racisme systémique au Québec. Il dit que ça n'existe pas. Il y a du racisme, pas du racisme systémique. Donc, l'on dit, mais pourquoi on voudrait entendre ces listes de lecture à lui, cet horrible personnage? Et en plus, il aime les livres de Mathieu Bock-Côté, cet auteur toxique. Donc, là, ils l'ont fait disparaître, mais c'était pas la volonté de faire de la censure. Mais c'était quoi d'abord? C'est pas de la censure. Puis, il m'a dit, là,
c'est la censure accidentelle.
Ben oui. Elle s'est enfargée dans son clavier, est tombée, poup, c'est disparu. Et s'il n'y avait pas des chroniqueurs, des chroniqueuses qui s'étaient élevés contre ça, écoute, il aurait continué, là, ça aurait passé comme du beurre en poil. Là, c'est que là, ils ont freaké. En fait, c'est même pas eux autres, c'est le conseil d'administration de l'Association des libraires qui dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, là, vous allez remettre cette affaire-là.
Eux semblent dire, corrige-moi, mais le conseil d'administration semble dire que la directrice générale a tout fait toute seule, là.
Oui.
Elle a pris panique, elle a vu les réactions contre Legault, puis là, ben, elle a pris panique, puis elle a trouvé une solution, elle a dû enlever son message.
Mais tu sais, je reviens toujours, c'est une phrase que je répète régulièrement, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Quand Radio-Canada décide de mettre un avertissement avant la petite vie à cause d'une plainte, une seule plainte, lorsqu'il y a eu quelques plaintes au Festival de jazz sur la pièce de Robert Lepage, puis qu'ils l'ont annulée, qu'ils ont tiré à plein, je veux dire, à un moment donné, il faut se tenir debout. C'est le rôle de ces organismes-là d'être solides, c'est des gros organismes, là, des grosses institutions, et là, on voit des musées, des bibliothèques, des diffuseurs, des producteurs plier les genoux après 5-6 plaintes de bozos, souvent anonymes, on ne sait pas c'est qui exactement. Écoute, il y a un libraire indépendant, un libraire d'occasion qui est interviewé aujourd'hui à l'émission de Sophie, et qui disait, vous ne savez pas, il dit, ça a l'air que les plaintes venaient du milieu littéraire lui-même. T'sais, du milieu, il y a des gens qui sont dans le milieu littéraire, et vous n'avez aucune idée à quel point le succès de Mathieu Bock-Côté en France suscite des jalousies. Et c'est un milieu extrêmement jaloux les uns les autres. Oui, et c'est des gens très jaloux les uns les autres, et ça a l'air qu'il y a des auteurs qui sont en maudit contre le succès de Mathieu.
Mais lui, Mathieu, c'est le grand gagnant là-dedans, là.
Ben oui, hein, parce que parlez-en bien. Archambault d'ailleurs qui a récupéré ça de façon commerciale, c'est assez drôle qu'ils ont tout de suite publié la liste de François Legault sur leur site internet. Mais c'est pour te dire à quel point. Puis écoute, j'écoutais ce matin à une radio concurrente, Luc Ferrandez, qui parlait. On sait qu'il y avait la commission Dumont-Curzy avant, là, c'est la commission Ravary-Ferrandez. Et Luc Ferrandez, il dit, oui, mais tu sais, bon, ils ont plié des genoux, l'Association des libraires du Québec. Et tu sais, c'est dit, parce que les gens qui achètent des livres, c'est des gens de gauche.
Voyons, il a pas dit ça.
Non, il a dit ça. Il a dit ça.
Mais c'est,
il dit,
je ne comprends pas qu'on lui laisse la parole. Là. C'est,
tout
ce qu'il dit, là, c'est incroyable. Là. N'importe quoi. C'est le pire de tout.
Écoute, il n'y a rien qui... Donc, moi, je ne lis pas. Tu ne lis pas, toi. Mathieu Bock-Côté ne lit pas, bien sûr. Éric Duhaime ne lit pas. Jérôme Blanchet-Gravel. Bon,
il y a vraiment
tous les
ça.
Gens qui sont... Oui, il a dit, on sait bien que les gens qui achètent des livres, ce sont des progressistes.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mais c'est profond, regarde. Tout se tient. Lui, là, il disait, mettons, moi, je suis là, on veut faire suer les automobilistes. Mais il faut être... il faut être fat, F-A-T, là, tu sais, faut se croire au-dessus de tout le monde pour dire, moi, je suis élu, mais je vais écœurer le monde volontairement, je vais gâcher leur vie, parce que moi, je suis plus important, plus intelligent, je sais ce qui est leur bien, puis tout ça. Tu sais, il y a quelque chose de profond, là.
Non, mais ils ont le monopole de la vertu. Et ils ont le monopole de la culture. Tu ne peux pas être... Tu sais, Stephen Harper a écrit récemment un livre qui est un livre extrêmement intéressant sur la montée du populisme. Et tu sais, on sait que Yann... Fortier, je pense, en tout cas, l'écrivain qui envoyait des livres régulièrement, parce que Stephen Harper, évidemment, est un politicien de droite, donc il lisait pas dans sa tête à lui, là, à ce gars-là, il lisait pas. Fait qu'il envoyait tout le temps des livres pour qu'il puisse lire, parce que la gauche... vraiment l'impression que en dehors d'eux, c'est l'enfer, là. En dehors d'eux, c'est l'ignorance, c'est des gens sans vertu. Donc, si t'es de droite, toi, tu vas écraser tout le monde, t'as aucune morale, et en plus, t'es ignare et t'as aucune culture. Mais tu sais, pour qui ça se prend, ces gens-là? Pour qui ils se prennent,
exactement?
Mais ça,
j'avoue que c'est bon.
Non, mais toi aussi, je trouve que Ferrandez, ça n'a pas de bon sens. Ouais.
Bon, l'air dans les écoles, la qualité de l'air dans les écoles, il y a une fondation qui ramasse de l'argent. J'ai trouvé ça bizarre, cette affaire-là.
La fondation Jasmin Roy, ouais, qui ramasse de l'argent. On dit qu'on va acheter des purificateurs d'air pour les installer. Jasmin Roy, c'est aussi Sophie Desmarais qui est là-dedans.
J'ai posé la question plusieurs fois au ministre. Il a toujours dit qu'il n'y a pas de problème d'argent. Il a transféré au centre de services scolaires l'argent qu'il faut pour s'occuper de la qualité de l'air. C'est pas une question d'argent.
Mais pourquoi il bouge pas, là? Pourquoi il ne bouge pas? Québec solidaire avait demandé qu'il débloque, c'était quoi, 87 millions de dollars pour acheter des purificateurs d'air pour les écoles en disant, écoutez, il est trop tard, là, de toute façon, on refera pas le système d'aération, puis ça n'a pas de bon sens, ça coûte cher, etc. C'est impossible qu'on fasse rien qu'ouvrir les fenêtres. À un moment donné, il fait moins 20, les étudiants qui sont sous le bord des fenêtres vont geler. Donc, on va acheter des purificateurs d'air, ça sera pas une solution miracle, mais quand même, ça va aider un peu. Et ça avait pas été accepté, leur motion avait été rejetée. Mais là, tu vois que c'est des fondations qui font cette job-là. Job qui devrait être fait par les centres de services. S'ils ont l'argent, mais pourquoi ils dépensent pas l'argent?
Mais en fait,
c'est
parce
pas cher, purificateur
d'air. Non, mais Richard, parce qu'ils considèrent que c'est pas nécessaire, là.
Ben, c'est pas nécessaire. C'est parce que, regarde, il y a beaucoup de spécialistes qui disent que...
Je le sais. Ben,
c'est ouais, dans de la guerre, c'est la transmission par aérienne, là.
Ouais, mais les mêmes spécialistes disent, si on ouvre les fenêtres, c'est bon. Mais là, c'est ça. C'est l'ouverture des fenêtres pendant les journées où il fait vraiment très froid. Ils disent, on pourrait les ouvrir pendant... Mais il y a vraiment des écoles qui ont l'air à penser que c'est comme ça qu'ils vont gérer la situation. Moi, je me demande juste, est-ce que pendant les 3 semaines des fêtes ou les 2 semaines et demie des fêtes, ils vont reconsidérer ça, ils vont peut-être acheter de l'équipement. Mais techniquement, quand on pose la question au ministre de l'Éducation, il dit, moi, là, les centres de services scolaires, j'ai l'argent, je leur ai transféré l'argent pour s'occuper de la qualité de l'air. Mais donc, écoute, que ce soit pour faire l'entretien des gros systèmes, pour ceux qui ont des gros systèmes, qui n'ont pas besoin d'ouvrir les fenêtres parce qu'ils ont une ventilation ou sinon pour acheter des petits équipements au besoin. Mais je sais, personne n'en achète, là. C'est comme si on avait l'impression qu'il y a un mot d'ordre par la porte d'en arrière pour dire on n'achète pas ça nulle part.
Mais tu sais, je peux te faire la liste des spécialistes, et même l'Organisation mondiale de la santé dit que c'est un des nerfs de la guerre, là, dans les milieux fermés.
La qualité de l'air.
Dans les écoles, c'est la qualité
oui,
de l'air.
Mais il y a plusieurs façons d'assurer la qualité de l'air.
La transmission par aérosol, etc.
Oui, ça, il n'y a pas de doute.
Mais ça coûte
il y a
pas
plusieurs
cher,
façons d'assurer la transmission de la qualité de l'air, là.
Va dans un Rona, ça coûte pas cher, les purificateurs d'air.
Mais là, ça, c'est pas bon. Non, ça te prend un purificateur spécial, là. Avec une filtration spéciale.
Non, il va en prendre. Il dit ça coûte 1 000 $. Ça va coûter 1 000 $ par école. C'est ce que Jasmin Roy dit. Il dit, on veut ramasser l'équivalent de 1 000 $ par école qui en a besoin. Fait qu'on va acheter ça. Là, c'est des trucs assez gros, là. Mais je ne comprends pas comment ça se fait que ça prend une fondation, comment ça se fait que ça bouge pas. Qu'on nous explique, là, parce que tout le monde a des questions.
Plus,
ça
revient
toujours là-dessus, là. On ne comprend pas. Puis, tu sais, on est là-dedans à longueur de jour, là. On lit, on interviewe des gens, etc. Comment ça bouge pas? À un moment donné, je pense qu'on est dû, là, pour une conférence de presse de M. Roberge, le ministre de l'Éducation, qui nous dit exactement, mais pourquoi, là, soudainement, ça prend une fondation comme ça, privée, pour amasser l'argent? C'est un peu bizarre, là, qu'il nous l'explique.
Et finalement, tu veux me parler du virage pro-français du Parti conservateur à Ottawa?
Oui, oui. Écoute, je parlais à Alain Reyes aujourd'hui, puis c'était très intéressant parce que je disais, tu sais, quand tu fais un virage comme ça, là, quand un chef, parce qu'on s'entend que c'est un virage quand même très important, on s'en est parlé. Quand tu fais un virage comme ça, il faut que tu t'assures que toutes tes troupes soient à la même page, sur la même page, que tout le monde a reçu le mémo. Visiblement, le Parti libéral du Canada, c'est pas tout le monde qui avait reçu le mémo, comme quoi on faisait un virage, puis on prenait la défense du français. On dirait qu'il y avait deux partis en un. Tu as écrit sur le Parti libéral du Québec les deux Dominique Anglade. Il y a un peu ça dans le Parti libéral du Canada. On dirait que tout le monde n'avait pas reçu le mémo. Puis il dit, moi, je vous mets au défi de trouver quelqu'un au Parti conservateur d'un océan à l'autre qui a dit quelque chose contre le virage qu'on a pris. On s'est assuré. Parce que moi, je trouvais ça intéressant. Je disais, vraiment, il faut qu'il y ait un travail en amont. Quand le chef arrive en chambre avec une déclaration comme ça importante, il faut que tout le monde dise « c'est là qu'on s'en va le Parti conservateur, puis il n'y aura pas de chicane interne ». Et le Parti libéral ne l'a pas fait, ce job-là. Ils l'ont pas fait.
Non, mais il y a eu des problèmes parce que leur présidente, par exemple, avait des déclarations contre la loi 101 qui datait du mois de septembre. Tu sais, il y avait du vieux stock. Il y avait des vieux enregistrements, là.
Oui, qui dataient avant le mémo.
Ouais.
Mais il faut que tout le monde soit vraiment sur la même page. Et je reviens là-dessus sur Dominique Anglade, parce que tu dis, elle va faire la split, là, attendre d'aller rejoindre les francophones, mais elle veut pas perdre son électorat anglophone. Je sais pas si t'as lu Don McPherson, de Gazette, qui a écrit une chronique en disant, ben là, tabarnouche. Là.
Ben non, mais les anglophones, ils vont dire, on peut pas être oubliés, là.
Ben, écoute, ils sont furieux. Ils disent, maintenant, on ne peut plus compter sur aucun parti pour nous défendre, les anglophones au Québec. Ils nous ont laissé tomber. Le Parti libéral du Québec nous a laissé tomber. Le Parti libéral du Canada nous a laissé tomber. Le Parti conservateur nous a laissé tomber. Est-ce que ça ouvre la porte, je crois, à un nouveau parti égalité? Je sais pas. Mais McPherson est furieux. Et il y a certainement beaucoup de gens chez les anglophones qui sont furieux aussi. Ils se sentent abandonnés autant par le fédéral que parce que, écoute, le conservateur, ils ont dit, arrêtez de vous plaindre puis vous comparez aux francophones hors Québec. C'est faux. Vous vous plaignez la bouche pleine. C'est un Christi de gros message à lancer, ça.
Ouais. Mais sur le plan des faits, sur le plan des faits, Erin O'Toole a entièrement raison quand t'as dit ça.
Complètement.
Que la minorité anglophone du Québec, c'est pas une minorité, là. T'es une majorité dans le pays, dans le continent, dans les médias du continent, dans la musique, dans les films, dans tout. T'es une majorité, là, t'sais. Mais, une fois que t'as dit ça, pour les anglophones de Montréal, il y a quand même un sentiment de dire, nous, les partis pour qui on a toujours voté, le libéral à Ottawa et libéral à Québec, les partis pour qui on a toujours voté, nous laisse tomber, comment ça se fait?
Oui, complètement. Ils disent, le plus gros coup de pied dans le cul qu'on reçoit, c'est de la part de notre gang. On se fait tirer dessus, là, par notre propre armée qui nous tire dessus.
Mais
ça va grincer.
Oh oui, ça va grincer. Merci, Richard.
Yes. Salut, Ben.
On s'arrête.